Corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue à Calibre sur Radio Kaléidoscope 97 FM.
Calibre, une des dernières émissions de l'année. Non, en vrai, il en reste encore un peu, il reste le mois de juin.
Mais on n'est pas encore en vacances. Hein.
Mais bon, en tout cas, on est toujours là. Donc Calibre, c'est toujours cette libre antenne pour parler des sujets qui vous tiennent à cœur autour de nos corps, de nos sexualités, de nos amours et affections.
Et ce soir, à la technique, c'est Alice et Maud, et à l'animation, c'est Myriam
et Marina.
Et on est très heureuse d'être avec vous ce soir. On attend vos appels au 04 76 09 09 09 pour poser des questions, témoigner.
Passer un coup de gueule, ce que vous voulez.
En parlant de coup de gueule.
Moi, je vais démarrer par ça.
Je crois que tu as envie de faire un coup de gueule.
Ouais, allez, ça fait longtemps que je l'ai. Bon.
Allez.
Alors, je voulais passer un coup de gueule contre des capotes, donc des préservatifs masculins, enfin les préservatifs classiques qu'on connaît.
Ceux qu'on trouve dans les magasins.
Voilà, donc ceux-là en particulier, on les trouve dans les supermarchés, les discounts, tout ça. Et en fait, leur problème, c'est qu'il y a marqué dessus parfum agréable et qu'en guise de parfum agréable, c'est un parfum, mais extrêmement fort, de Malabar. Alors, ça peut être un trip, ça peut être
on
une envie.
On a le droit d'aimer les Malabar.
Mais c'est mieux de le savoir avant de l'acheter, parce que je crois que c'est vraiment genre la marque pas trop chère qu'on trouve. Je vais vous dire ce que c'est, et puis tant pis si on a des problèmes derrière. Donc c'est un paquet bleu et blanc, et ça s'appelle Intimity Classique. Voilà, et c'est la marque Mercurochrome.
Et ça coûte vraiment pas cher.
Ouais, je crois que ça fait partie des moins chers, ouais.
D'accord, donc c'est pour ça que tu t'es dit, cool, 12 préservatifs
c'est
pour
ça.
Seulement pas cher.
En vrai, c'est pas moi qui les ai achetés, c'est un coup de gueule qu'on m'a rapporté. Ah. Et je m'en fais la voix ce soir.
D'accord. Et donc voilà. Le goût Malabar
Le goût, je sais pas. En tout cas, l'odeur,
l'odeur.
C'est sûr.
Ah,
voilà, le goût peut-être.
Après, t'as la chatte qui pue, quoi.
Ouais. Ouais, et puis alors vraiment, ça donne pas envie. Enfin bon, sauf pour un trip Malabar, quoi.
Mais, voilà.
Voilà.
Bon,
donc si sachez-le.
Si vous aimez, vous avez le droit de nous appeler pour nous le dire. Hein. C'est pas parce que Mimi, elle aime pas que vous avez pas le droit d'aimer.
Ne vous faites pas avoir. Ou alors, achetez en toute conscience.
Les préservatifs au Malabar. Ok, on va écouter une première musique pour vous laisser le temps de nous appeler si vous avez envie.
Allez, le numéro, un petit coup, on vous le redonne, c'est le 04 76 09 09 09. À force, vous allez le connaître par cœur.
On se retrouve dans quelques minutes après avoir écouté Toxic par These Bones.
I'm calling. A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it.
Me.
Vous êtes toujours sur Calibre Radio, Kaléidoscope 97FM. On vient d'écouter These Bones, c'était toxique.
Donc c'était une reprise de Britney Spears pour les gens qui n'auraient pas reconnu.
Ah ouais, c'est trop bien.
Qui savaient pas.
On accueille notre correspondante Ada.
Ouais, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ça va ?
Oui, et vous ?
Oui, ça va. Bienvenue à Calibre.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'amène ?
Qu'est-ce qui m'amène ? J'ai écouté il y a 2 semaines là, l'émission sur l'hétérosexualité comme norme obligatoire là, et je me disais, moi je suis prof en fait.
Ouais.
Et quand j'ai écouté, je me suis dit, j'en avais pensé à ma salle des profs là, et à ce qu'ils pouvaient se dire sur ces questions-là.
Ouais.
Et en fait. Eh ben, il se dit rien, c'est-à-dire que, enfin, il se dit que de l'hétérosexualité.
D'accord.
Moi, ça fait donc un an là, je suis dans ce collège-là, et en fait, tout ce qui sort seulement de la vie des gens intimes là, c'est j'ai des enfants, je me marie, je vais acheter une maison, et en fait, on ne sait rien d'autre. Le reste est absent en fait des discussions. En général, ça sort peu, hein, cette discussion-là, mais quand ça sort, c'est que ça. Et c'est que après, quand j'ai rencontré deux gens un peu plus proches, quoi, où en fait j'ai su qu'il y avait des personnes qui étaient homo, garçons et filles, et en fait c'est absent des discussions, quoi. Ça ne se dit pas du tout.
Alors dans ce que tu décris, non seulement c'est l'hétérosexualité, mais c'est l'hétéronormalité. Enfin, je veux dire, la maison, les enfants, c'est assez triste, non ?
Oui, de toute façon, c'est pas très gay, non, comme discussion. Mais en tout cas, vraiment, c'est assez étonnant, quoi, que vraiment rien ne sorte. Alors qu'en plus, pour avoir discuté donc avec une collègue qui est lesbienne, elle disait que. Alors moi, je ne vais pas chercher les gens sur ces questions-là, mais elle disait qu'en fait, il y avait vraiment un certain nombre de collègues qui étaient homo dans le
collège.
Donc c'était assez étonnant que ça ne sorte jamais, en fait, et que les seules choses qui sortent, c'est de l'ordre de je sors avec quelqu'un du sexe opposé, je suis mariée ou paxée, ou je vais me marier, et je vais avoir des enfants, ou j'en ai.
Et cette collègue lesbienne, est-ce que tu sais pourquoi elle se sent pas d'en parler dans la salle des profs et tout ? Tu lui as demandé ?
Non, je lui ai pas demandé. Je lui ai demandé comment elle avait, si les d'autres gens que moi le savaient.
Ouais.
Et en fait, quasiment tout le monde le sait, sauf un collègue nettement plus âgé et dont elle pense qu'il ne serait pas en capacité d'entendre ça.
Ouais.
Mais sinon, tout le monde le sait. Mais c'est pas quelque chose qu'elle cause vraiment de manière tranquille, quoi, en fait.
Elle peut pas dire comme les autres, ce week-end, on va à la montagne avec ma copine.
Elle dira pas ma copine, non. Elle va dire le prénom, ce qui passe du coup de manière plus discrète, parce que quand je dis je vais en week-end avec machine, tout de suite, c'est. Voilà, ça peut être une amie, on n'est pas obligé d'aller chercher sur l'intimité, quoi.
Et je me demandais, est-ce que les collègues, ils posent des questions ? C'est-à-dire, est-ce que c'est chaque personne qui arrive, qui rentre de week-end et qui dit « Oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça » ou est-ce qu'il y a un intérêt des autres collègues qui posent des questions ?« Qu'est-ce que tu as fait avec tes enfants, ton mari, ton machin ?»
Non, ça pose peu de questions. C'est assez discret.
Ouais. Donc c'est vraiment chaque personne qui se sent ou pas d'amener une petite partie de sa vie en dehors.
C'est ça. Voilà, complètement.
Oui, et du coup, forcément, c'est beaucoup plus compliqué dans une société hétéronormée.
Voilà, oui.
Mais alors moi, ce que ça me fait penser, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'imagine que si déjà dans la salle des profs, c'est-à-dire entre collègues, ce n'est pas évident d'être visible en tant que gay ou lesbienne, qu'est-ce qu'il en est par rapport aux élèves ?
Ouf.
Ouais, n'empêche, c'est important aussi.
Oui. Non, c'est très flippant. Enfin, moi, j'ai pu avoir une ou deux classes avec qui j'ai pu discuter de ça par hasard, parce que ça tombait dans le cours. Il y a un moment, voilà, c'est sorti des questions autour de l'homosexualité, et c'était terrible, quoi.
Qu'est-ce qui était vraiment, terrible
C'est-à-dire que dans la classe, en tout cas, et qui ça tournait en débat, c'était vraiment des propos très durs. Du style c'est dégueulasse, du style ils ont vraiment un regard sur l'homosexualité qui est pas du tout serein, quoi, qui est très très dur et très jugeant.
Ouais, qui reflète probablement l'état de cette société qui est encore très homophobe, moi, je pense.
Oui, c'est ça.
Moi, j'ai une amie qui bosse avec des gamins d'âge CE2, par exemple, et l'autre fois, c'est sorti. Ah non, de filles qui s'embrassent, c'est dégueulasse, quoi. Les mômes,
ouais,
ils ont...
Oui, c'est ça.
Ils ont 8 ans, 7 ans, et...
Mais toi, tu as des idées d'outils pour, avec les élèves, aborder ces questions-là?
Alors moi, cette année, j'ai rien creusé parce que j'ai pas eu le temps et parce que je maîtrise pas assez bien l'institutionnel dans mon collège pour pouvoir aller demander de la démarche. Voilà, je sais que le planning familial intervient de temps en temps, mais plus sur des questions relations garçon-fille en général que sur l'homosexualité en tant que telle. Donc, mais bon, ce qui est déjà plutôt très bien. Mais de manière sporadique, c'est-à-dire c'est genre pour les troisièmes et une fois par an. Voilà. Alors en non-mixité par contre, en tout cas dans mon collège c'était ça. Ce que je trouve chouette. Mais pas plus que ça. Et après, là je vais changer d'académie et je vais me rapprocher de chez moi. Et du coup chez moi je sais que je vais essayer de me mettre en lien avec des associations qui font des démarches autour des questions relations garçon-fille et puis sexualité et puis tout ça parce que ce serait je pense c'est intéressant qu'il y ait des intervenants extérieurs sur cette question là.
Ouais, je pense qu'effectivement c'est un bon outil de faire venir des intervenants extérieurs. C'est plus facile que de s'engager soi personnellement. Enfin, c'est pas une question de facilité de l'acheter ou quoi. Hein. Je veux dire, c'est plus simple quoi, et je pense plus sain peut-être aussi. Mais moi, je sais qu'il y a plusieurs assos. Enfin, en tout cas à Grenoble, là où nous on est à Calibre, je sais qu'il y a les assos LGBT de Grenoble interviennent dans les lycées. Ouais. Et dans les collèges, sur invitation, pour animer des débats avec les élèves, et puis en discuter avec elle et eux. Ouais. Donc j'imagine qu'ailleurs aussi, qu'il y a plein d'assos LGBT qui sont tout à fait, qui travaillent sur comment discuter avec les jeunes, comment avancer sur ces questions-là, déjouer l'homophobie.
Un autre outil auquel je pense, ça peut être des bouquins ou des journaux ou des brochures. Alors soit au CDI, s'il y a un fonds qui est possible de développer, soit s'il y a un foyer, une petite étagère avec des trucs, à voir après comment c'est possible d'avoir les autorisations, tout ça. Mais...
Oui, c'est ça. Voilà. Parce que moi, par exemple, je me questionnais sur la possibilité de mettre, la pub de Calibre. Et après, je me disais, ben oui, mais effectivement, il faut que j'ai des autorisations parce que ça peut pas, on peut pas afficher comme ça, quoi.
Bon, nous, on en a posé plus dans des lycées que les collèges. Hein.
Je pense que les collèges, c'est plus compliqué.
Les collèges, ouais, mais après, de l'intérieur, peut-être. S'il y a à l'infirmerie, par exemple, si toi, t'es en relation avec l'infirmier ou l'infirmière, ça peut être un bon endroit.
Mais des fois, d'ailleurs, ça, c'est vrai, tisser des liens avec l'infirmière du collège, c'est une personne qui est assez importante, quand même, je pense, dans la vie du collège.
Oui.
Et bon, alors voilà, si c'est une vieille réac, ou une jeune réac, d'ailleurs, mais si c'est une vieille féministe, enfin bon, voir si ça peut être une alliée, quoi.
Tout à fait. Bah, souvent, d'ailleurs, les interventions, enfin moi, dans les collèges que j'ai fréquentés, l'intervention sur les questions relation garçon-fille, elle vient souvent de la part de l'infirmier ou de l'infirmière, quoi.
Ouais.
C'est souvent par ce biais-là que ça se décide, enfin que ça s'est appuyé. Ouais. Après, il y a la question de qu'est-ce qu'on apporte comme support. Moi, je suis prof de musique, par exemple, et donc le sujet, il a été abordé parce qu'on parlait des danses, par exemple, et que du coup, est-ce que ça se danse entre garçons et filles, ou est-ce que ça se danse entre garçons, entre filles? C'est comme ça qu'on a été amené à discuter de ça, quoi.
Ah ouais. Ah ouais, mais en plus, il y a des chansons, ouais, ça peut être intéressant de discuter des chansons d'amour, à qui elles s'adressent, justement.
Oui, ça.
T'enseignes quelle matière, si tu peux nous dire?
La musique.
Musique?
Ouais,
c'est clair, il y a plein de trucs. Là.
Ouais.
Mais peut-être ne serait-ce, tu sais quoi, je pense à un truc, il y a quand même pas mal de musiciens dont on sait qu'en fait, ils étaient homos ou quoi. Bon, je ne sais pas pour les musiciens classiques, mais et qu'en fait, ne serait-ce que le dire simplement, quand on aborde la biographie d'un,
bien sûr, oui,
d'un musicien, ou comme en français on peut aborder la biographie d'un auteur, ne pas le cacher, quoi, le dire simplement que ça faisait partie, bon voilà, il est né en telle année à telle ville, il a fait ça, 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 il était homosexuel, ou il a eu des rapports homosexuels.
Mmh. Voir, moi j'irais, dans ce cas-là, pourquoi pas toutes les biographies, dire bon, bah, il était hétérosexuel, voilà. Comme ça, ça met tout le monde sur un pied d'égalité.
C'est vrai.
C'est vrai. C'est vrai.
En tout cas, bon, c'est des petites choses que ça qui pourraient peut-être banaliser un peu, ou je sais pas, le rendre un peu plus.
C'est vrai que mon premier travail cette année, ça avait été pas mal d'amener des musiciennes connues, parce que c'est aussi un challenge en musique, oui, d'arriver à faire entendre des femmes. Et en rap, par exemple, c'est assez compliqué. Là, j'avais des classes, par exemple, leur réaction, c'est dès que c'est une femme, c'est de rire, quoi. Ouais. Donc, ça commence à être compliqué, déjà, hein, quand c'est rien que ça, déjà.
Ah ouais, mais c'est déjà un super travail, ouais.
Mmh. Ouais, ouais. Il y a du challenge, en fait.
Ah, il y a du travail. Hein.
Puis surtout au collège, quoi. Hein.
C'est ça.
Ouais, il faut se rappeler, c'est quand même une période difficile.
Où
hein.
On est bien tous bien bêtes, quoi.
Enfin, je veux dire... Bien paumés. Ouais. Enfin, moi, je me rappelle, moi, au collège, je j'étais bien paumée et j'en ai bien chié, quoi. C'est quand même une période hyper violente, hein, je pense.
Oui.
Au-delà de ces questions-là.
Oui.
Oui, oui, oui. Mais en tout cas, pour revenir au sujet du début, là, sur les salles des profs et tout, et comment... moi, j'ai quand même envie de... Je ne sais pas quel conseil je pourrais donner, mais je trouve qu'en tout cas, montrer des signaux de solidarité, de... Un truc un peu plus fort que juste le non-jugement, quoi. Tu vois, un truc de... Que t'es une alliée, quoi, de tes collègues homo, moi, je trouve que c'est bien.
Ouais.
Enfin, parce que je pense que c'est pas facile et je pense que, en fait, la peur de l'homophobie, c'est quelque chose qui, je pense, au quotidien, peut être vraiment lourd à porter, tu vois, et que, du coup, ben, c'est que toi, si tu te poses en... Trouver le moyen de te poser en allié, je pense que ça peut être vraiment important pour ces collègues-là.
Ouais. Oui. Avec l'impression quand même de ce que pouvait dire la collègue, hein, c'est qu'elle avait l'air de le vivre plutôt tranquillement, en fait, quand même.
Ouais. Bah après, voilà, ça dépend toujours aussi dans sa vie. Ça se trouve, elle a suffisamment de soutien affectif, solide dans sa vie. Et du coup, bon, bah, son travail, c'est son travail. Ça ne lui pèse pas plus que ça. Ouais, c'est probable. Hein.
Mais d'avoir en tout cas des échos, en tout cas, puisque la plupart des collègues le savaient, d'avoir des gens qui n'ont pas changé d'attitude, par exemple, quand ils l'ont su, ou voilà, en tout cas... un entourage plutôt bienveillant, quoi. Contrairement à ma mère, par exemple, qui, elle, ne le dit pas dans son travail parce que c'est trop... Bah, elle sait, au vu de réactions de collègues face à, par exemple, une mère qui quitte son mari et puis qui part avec une femme, et des collègues qui réagissent de manière « Oh, tu te rends compte, t'as vu ce qu'elle a fait ?» Bon, voilà.
Est-ce que ta mère est lesbienne ?
Oui.
Ah, ouais. Et elle travaille dans quel secteur ?
Elle est psychoscolaire.
Donc dans le milieu aussi
Oui, pareil, éducation nationale, mais plus au primaire, quoi.
Oui. Du coup, elle se sent pas de le dire, quoi.
Ah non, puis non. Non, vraiment, elle dit que c'est pas son lieu de combat, quoi.
Ouais. Oui, voilà, après, c'est des choix personnels de comment, et des stratégies, moi, je crois, hein, de comment, qu'est-ce qu'on fait pour se sentir bien, et je crois qu'il n'y a pas de morale à faire, quoi, tu vois.
Non, non, bah non.
Elle fait ses choix pour elle pouvoir vivre sereinement ce qu'elle a à vivre. Et c'est vrai que le milieu du travail, après tout, ça peut aussi être...
Oui, personne ne porte tous ces combats ou ces revendications ou ce qui nous construit dans le travail. Hein. On n'est pas, ça reste le travail, quoi.
C'est ça, c'est ça. Mm-mm.
Ah bah en tout cas, ouais, ça pose plein de questions et questionnements. C'est chouette, ouais, de tout ce que tu nous racontes.
Est-ce que tu avais envie de nous raconter d'autres choses encore ?
Sur ces questions-là, non. Après, je crois au départ, j'avais envie de présenter des livres, mais peut-être je ne vais pas le rappeler une autre fois et présenter des livres, je ne sais pas.
Ah bah ouais, une autre fois. C'est sympa, okay. Comme ça, on ne fait ça. Pas tout d'un coup, et puis tu nous rappelleras, comme ça.
Très bien.
Super. Bon, bah merci beaucoup pour ton appel, ton témoignage.
Et à bientôt, alors.
À bientôt.
Et puis aussi, tu pourras nous rappeler, peut-être, si jamais, toi, t'en as rediscuté avec ta collègue, que tu mets en place trucs pour être en soutien, voilà, nous raconter plus tard comment ça se passe, mieux, moins bien.
Très bien.
Voilà. Eh bien, on te repasse Alice, du coup.
Bonne soirée.
Merci, salut, toi merci. Aussi.
On va écouter un petit morceau de Tom Waits, Temptation, et on se retrouve après, toujours sur Radio Kaléidoscope 97 FM.
Et vous pouvez nous appeler hein, toujours pour discuter, tout ça, au 04 76 09 09 09. Calibre en direct hein, sur Radio Kaléidoscope 97 FM ou alors peut-être sur internet partout dans le monde, pas encore au-delà, mais voilà. On vous
c'est
avait
un, c'est un projet.
Oui, c'est on y réfléchit durement. On vous
en
avait
toute modestie bien sûr.
Oh oui, non mais toujours. Oui, donc on vous avait parlé il y a quelques épisodes de cela d'un appel qui s'appelle toujours IVG, je vais bien, merci, donc a été lancé par les filles des 343
elle s'appelle comme ça. Donc les filles des 343 salopes, hein, on vous a déjà expliqué, donc on vous renvoie à l'émission pour tout ça. Et elles ont créé un blog et il y a souvent des articles, des contributions, des témoignages. Et là, en ce moment, là, en première page, il y en a un qui est formidable et qu'on avait vraiment envie de partager avec vous. Il s'appelle « Je n'ai jamais avorté et je ne vais pas bien du tout ». Et en gros, c'est donc une fille, une femme qui s'appelle X, là, qui est anonyme, et qui ne voulait pas être mère. Mais elle n'a pas eu l'énergie d'aller contre les normes sociales. Aujourd'hui, elle se bat contre sa frustration et nous a transmis avec confiance un témoignage qui dit que la maternité peut faire énormément souffrir. Donc c'est ce témoignage que Marina va vous lire.
J'avais commencé à écrire une très longue lettre racontant en détail ma vie, pour que vous puissiez comprendre comment on peut en arriver là. Et puis, je me suis rendu compte que ça avait aucune importance, car ce que vit une femme dans l'intimité de son triangle ventre-cœur-cerveau ne peut être compris que par elle-même, et encore. Alors je serai brève. Bientôt 40 ans, une fécondité qui se rit des contraceptifs, 5 enfants, et une histoire personnelle qui m'a amenée à ne pas avorter alors que tout m'indiquait de le faire, sauf mon absence de trip, de courage, pour aller contre les conneries, excusez-moi pour cette impolitesse mais ce mot correspond à ce que je ressens, les conneries inculquées depuis l'enfance. Je n'ai jamais avorté, et je le regrette. Je n'ai jamais pu être une maman pour ces enfants qui n'y sont pour rien, réduite à jouer la comédie de l'amour pour qu'ils puissent quand même grandir sans trop de dégâts. Ce n'est pas que je ne les aime pas, c'est que je suis régulièrement surprise quand ils m'appellent maman, car je ne suis jamais tombée amoureuse de mes bébés. Je les aime comme on aime des amis, des gens qu'on connaît bien. Je m'en suis très longtemps voulu, croyant être anormale. J'aurais voulu prendre le temps de désirer un enfant, d'aimer chaque mouvement dans mon ventre au lieu de les détester. J'aurais voulu être fière de cette graine de vie qui pousse à travers moi au lieu de me sentir violée pendant 9 mois et de devoir taire la rage et la honte de n'être qu'un pantin en la masquant derrière une béatitude feinte de bon aloi. J'aurais voulu que cet enfant lise de la fierté dans mes yeux plutôt que de l'indifférence polie. J'aurais voulu qu'il se sente aimé pour qu'il soit sûr de mériter d'être aimé et savoir aimer à son tour. J'aurais voulu pouvoir prendre le temps de caresser mon ventre en rêvassant, au lieu de devoir toujours courir pour nourrir toutes les bouches qui dépendent de moi. J'aurais voulu pouvoir faire un vrai métier, au lieu de devoir courir de boulot épuisant en petit boulot qui te ravale en sous-humanité, juste pour pouvoir garder la tête hors de l'eau. J'aurais voulu me sentir bien dans ma peau, épanouie, plutôt que de n'être qu'une machine sans âme ni lendemain. Et marre qu'on me dise que j'ai du courage lorsqu'on apprend que j'ai 5 enfants. Ce n'est pas du courage, c'est de la lâcheté. Mais il paraît qu'il ne faut pas dire ce genre de choses. Je n'ai jamais avorté et je ne vais pas bien du tout. Je voudrais revenir en arrière, rembobiner le film, mais c'est impossible. Alors je vais continuer à avancer parce qu'il le faut, parce que ces 5 mômes, je ne les laisserai pas tomber, car ils ne sont pas responsables des choix que j'ai faits de les laisser exister, lorsque tout aurait pu s'arrêter avant qu'ils ne soient des quelqu'un à part entière. Mais je vous jure que quand je vois des gens qui osent prétendre mieux savoir que les principales intéressées ce qui est bon pour elles, je deviens verte de rage et toute la frustration accumulée par ces années menace de déborder en faisant d'énormes dégâts.
Donc voilà, c'était c'est ça ce témoignage qui nous a beaucoup
touché,
parlé, plus d'entendre aussi ces choses qu'on comptait, quoi, hein, souvent.
Ouais, je pense que c'est un des plus gros tabous, ce rapport-là à ne pas se sentir mère, en fait. Mmh. Et je pense que dans cette société patriarcale, qu'une femme refuse son rôle de mère, c'est quelque chose, c'est un sacrilège, en fait. Mmh. Et je pense que c'est quelque chose que les femmes ne peuvent pas dire. Et là, cette femme qui a témoigné, je pense que c'est énorme comme courage de témoigner,
ouais.
De ça.
Dans ce sens-là. Il y a un peu des commentaires derrière, on en a sélectionné quelques-uns aussi qui apportent d'autres trucs ou qui renforcent. On va vous les lire aussi en alternance.
Allez.
Allez. Donc Michel, votre témoignage m'a ému aux larmes. Bravo pour votre courage d'avoir osé écrire ce témoignage et je suis persuadée que vous n'êtes pas la seule dans ce cas.
Toutefois, le fait d'avoir vécu, de vivre cette situation, de galérer comme vous l'écrivez pour arriver à nourrir ses 5 bouches et à élever ses enfants, que vous n'avez pas désiré, font de vous une mère admirable et une femme exceptionnelle. Gardez cela en mémoire.
Une fille qui s'appelle Marina, c'est pas moi. Merci de témoigner en ce sens. Peut-être qu'un jour, les gens arrêteront de propager des idées fausses pour nous ranger à la maison.
Anne. Témoignage bouleversant. Personnellement, je me suis fait avorter en 98 et je ne l'ai jamais regretté. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, je sais que j'ai pris la bonne décision. Il s'agit de notre corps et de notre décision. De plus, l'espèce humaine est loin d'être en voie d'extinction. Ce serait même plutôt le contraire. Donc, qu'on nous foute la paix avec la procréation. Voilà, c'est dit.
Témoignage qui me touche énormément, car la sensation d'être violée pendant la grossesse, je l'ai vécue. On appelle cela la tocophobie, une phobie encore trop peu médiatisée et qui pourtant touche pas mal de femmes en âge de procréer et qui souvent surprend les femmes au moment d'un début de grossesse. Je ne sais pas si X a envisagé qu'elle pouvait expliquer son profond mal-être de grossesse à une tocophobie qui la rendait et continue de la rendre indifférente à ses enfants et dans l'incapacité de pouvoir être mère. Peut-être cela pourrait l'aider à comprendre le pourquoi du comment. En tout cas, je voudrais dire merci à X d'avoir exprimé qu'on peut avoir des enfants et pour autant ne pas se sentir mère et ne pas pouvoir l'être pour les enfants que l'on met au monde. La société a tellement tendance à faire croire que la fonction biologique reproductive des femmes fait les mères de façon quasiment instantanée et naturelle. Non. La maternité, à savoir assumer et donner de soi à ses enfants, n'est pas naturelle chez les êtres humains et n'a rien à voir avec la capacité physique, biologique à faire des enfants. On ne naît pas mère, on le devient ou pas. Et qu'on aille au bout d'une grossesse ou pas. Si toutes les femmes qui accouchent et ont des enfants étaient des mères pour leurs enfants, il n'y aurait pas autant de détresse et de mal-être chez bien des enfants et des adolescents. Je crois qu'il serait temps en 2011 de sortir du concept qu'une femme doit obligatoirement, pour s'accomplir et exister, être reconnue socialement, passer par la maternité, alors qu'elle n'en a ni le désir, ni les capacités, ni les sentiments à le devenir, mais qu'elle s'y risque le plus souvent simplement par esprit d'imitation, peur de ne pas être aimée, peur d'aller à contre-courant de la mode ou de la religion. J'envoie à X plein de courage et de force pour avancer dans son chemin de vie et merci encore à elle d'avoir témoigné.
Bonjour, je suis celle qui a écrit ce témoignage, donc c'est X qui réécrit un commentaire. Vos quelques mots m'ont touchée au-delà de ce que je saurais exprimer, merci. Je ne connaissais pas la tocophobie. Mon mal-être pendant mes grossesses, qui est allé du supportable à l'insoutenable au fur et à mesure qu'elles s'enchaînaient, vient de cette impression d'être prise au piège, de ne pas avoir réellement le choix, et de savoir par avance tout ce que ça va me coûter en épuisement et en renoncement de soi, tout en sachant qu'à aucun moment je n'aurai le droit de me plaindre ou de faiblir sans avoir la contrepartie de l'avoir voulu. C'est ça, ressenti au plus profond de mes tripes, qui me rende odieux cette maternité, comme un sacerdoce imposé sans aucun sens pour moi, juste le sens des autres. J'ai résolu une partie du problème en me faisant stériliser définitivement. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher de compter à rebours le temps qui me sépare des 18 ans du dernier né. Ça m'aide à tenir. Mais là aussi, il paraît qu'on n'est pas normal quand on pense des choses comme celle-là. C'est ce que j'ai longtemps cru aussi.
Il paraît qu'on n'est pas normal quand on pense des choses comme celle-là. Il paraît. Mais par écoute et observation, on voit combien même celles qui ont cru au truc, celles qui ont crié partout leur joie de la maternité merveilleuse et de l'accomplissement que c'est d'être mère, etc., sont travaillées aussi, parfois, par ses pensées, et la plupart les enferment dans le secret pour faire bonne figure, pour ne pas se donner à elles-mêmes l'image d'un reniement. Bref, elles sont acculées à un certain déni. Vous semblez n'avoir pas eu du tout la tentation de vous venger par l'indifférence, ou pire, à l'égard de vos mômes, toute la question restante étant dans la patience. Le simple fait de les respecter est sûrement amour bien plus réel que les déclarations romantiques qui accompagnent les contes de fées, dans lesquels tant de femmes peinent à reconnaître qu'elles sont piégées.
Et un dernier commentaire. Ma chère X, qui est la bonne mère ? Celle qui assume ce qu'elle a mis au monde ou celle qui se sert de ses enfants pour faire croire au monde entier que sa vie n'est qu'une réussite et bonheur ? À mes yeux, vous avez la plus grande qualité qui soit. Vous êtes lucide.
Alors oui, ça fait bien mal, mais c'est un service que vous rendez à vos enfants. Et quand ils seront en âge de comprendre, vous pourrez avoir avec eux des conversations, notamment avec les filles si vous en avez, afin qu'elles comprennent ce que vous avez vécu et qu'elles se sentent libres de faire autrement. C'est le plus grand service qu'on puisse leur rendre, il me semble. Ma fille a 10 ans et elle sait que je n'aime pas être mère. J'aime bien vivre avec elle, une semaine sur deux seulement, plus je n'y arrive pas. J'aime partager des moments avec elle, je la trouve merveilleuse malgré ses défauts dont je suis bien consciente, mais je trouve ça trop difficile et je préfère être plein d'autres choses que mère. On en parle souvent et je lui ai bien expliqué que ça n'avait rien à voir avec elle. Elle a l'air de le vivre plutôt bien et m'a dit qu'elle ne voulait pas la même vie que moi. Voilà. C'est mercredi, le jour préféré des mères, comme on le sait. Bon courage.
Bon, je ne sais pas si on va en discuter plus que ça ce soir. Je pense que c'est un peu... pour moi, c'est hyper important de relayer ce genre de paroles qui est hyper rare. Moi, ça me touche à fond. J'ai envie de vous dire que si ça vous donne envie de témoigner aussi... sur ces questions-là, ben, Calibre, j'aimerais bien que ça puisse être un espace pour ça. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire aussi. Peut-être c'est plus facile pour le coup.
Donc, peut-être le mail, comme ça, vous l'avez directement, c'est k-libre, donc k-libres, @poivron, le légume, le poivron, .org.
Voilà, donc on peut remercier le site des filles des 343 de permettre ces espaces de parole. On va s'écouter un petit morceau de musique, je te laisse le présenter,
j'arrive pas à lire le titre en anglais. Moi je vais essayer. Alors, c'est The Slits, le groupe, et le titre du morceau c'est I Heard It Through the Grapevine, donc c'est je l'ai entendu à travers la grappe de raisin.
Your plans to make me blue.
Vous êtes à l'écoute de Calibre, l'émission de Libre Antenne, corps, amour, sexualité et tout ce qui va avec, sur Radio Kaleidoscope 97FM ou sur Internet. Vous pouvez nous appeler pour nous parler avec nous.
Et alors, c'est-il quoi le numéro pour nous appeler? C'est-il le 04 76 09 09 09?
Voilà, ce soir, on aborde beaucoup de choses dans notre émission et aussi des choses qui nous émeuvent pas mal. Alors, ça nous rend un peu débiles.
Merci.
Mais nous devons assumer l'émotion, Myriam. Assumer l'émotion. Et on va continuer. Alors là, ouais. C'est toujours grâce aux filles des 343 qui décidément font
un boulot formidable.
Voilà.
Et vraiment, on vous conseille leur blog. Hein.
On mettra le lien sur le site de Calibre. Ouais.
Et alors là, voilà, je vais lancer la phrase choc. La phrase choc, c'est « L'IVG est une solution. Et on ne prévient pas les solutions, on les utilise. »
Merci.
Oui, merci.
Merci Sophie Godu. Donc, en fait, c'est une interview de Sophie Godu, qui est gynécologue obstétricienne, responsable d'une unité d'IVG et de planification familiale dans un hôpital public depuis 10 ans. Et on avait envie de vous lire son interview. Donc, elle dit de son travail que c'est d'assurer la santé des femmes dans le respect de leurs choix. Et en 2010, l'équipe dans laquelle elle travaille a réalisé 2200 IVG.
Alors, on n'aurait qu'à dire que je fais les filles des 343 et puis Marina va incarner Sophie Godu.
Bonsoir.
Bonsoir. Dans les médias, nous entendons souvent dire que l'IVG n'est pas un acte gratifiant pour les praticiens et les praticiennes, et pas seulement en termes financiers.
L'IVG est un acte médical techniquement simple. En ce sens, cela peut sembler peu gratifiant. On ne réalise pas une prouesse technique. Mais effectivement, c'est très gratifiant de participer à l'indépendance des femmes, d'être le professionnel qui leur permet de réaliser leur choix.
Certaines idées fausses circulent autour de l'IVG. Il nous semble important de rassurer les femmes à ce propos. En tant que praticienne, pouvez-vous répondre à ces deux affirmations qui circulent beaucoup sur Internet notamment ?
Oui, oui, tout à fait.
Alors, première affirmation. L'IVG serait dangereux pour la santé des femmes. L'IVG est un acte chirurgical lourd.
C'est une contre-vérité. Si on considère les complications médicales, il y a une graduation. Le moins dangereux est de ne pas risquer une grossesse et donc d'utiliser une contraception. Puis, interrompre une grossesse est moins dangereux que de la poursuivre. Et du point de vue du geste chirurgical, ce n'est pas un geste lourd. C'est simple, rapide et les complications sont extrêmement rares.
Autre affirmation, l'IVG rendrait les femmes stériles.
C'est aussi une contre-vérité. Les avortements clandestins dans les pays où l'IVG n'est pas autorisé peuvent se compliquer d'infections et donc de stérilité. Mais quand l'IVG est médicalisé, il n'y a pas de risque de stérilité ultérieure. C'est un acte médical très sûr. Et en France, où une femme sur deux fait une IVG dans sa vie, nous avons également la natalité la plus haute d'Europe. Et ce sont les mêmes femmes.
À propos d'idées reçues, nous avons mis en place ce blog « IVG, je vais bien, merci » contre ce que nous pensons être une idée reçue sur l'avortement. L'IVG serait forcément traumatisante et dramatique pour les femmes. Nous pensons que cette description de l'avortement est caricaturale, déformée et fausse pour une bonne partie des femmes. Vous, qui êtes tous les jours au contact des femmes qui avortent, qu'en pensez-vous ?
Une étude récente parue dans le Lancet est venue confirmer ce que la plupart des praticiens pensaient. C'est l'état psychologique de la patiente avant l'IVG qui détermine son état après l'IVG. Si une femme ne va pas bien avant l'IVG, elle n'ira pas bien après. Je vois dans le discours dominant, relayé même par des gens favorables à l'IVG, recours à l'IVG égale traumatisme psychologique définitif. Eh bien là-dedans, je vois un succès des mouvements anti-IVG. Et c'est sans doute la première et la plus violente des agressions auxquelles vont être confrontées les patientes dans leur parcours. Pour la plupart des femmes que je soigne, l'IVG est un événement fort, mais ça n'est pas un drame. C'est une solution à une grossesse malvenue qu'elles ont décidé de ne pas poursuivre. Et certaines circonstances sont plus difficiles que d'autres. Rupture, changement d'avis du partenaire, perte d'emploi, violence conjugale. Mais c'est alors la globalité de la situation qui fait souffrir les femmes.
Nous entendons souvent à propos de l'IVG qu'il ne faut pas qu'il se banalise, que ce n'est pas un acte anodin. Que vous évoquent ces phrases que vous avez certainement mille fois entendues.
L'IVG est un acte médical fréquent. Une Française sur deux y aura recours dans sa vie. C'est donc banal. Anodin, non. Aucune patiente n'est contente de se retrouver à ma consultation. Le discours que vous décrivez est un discours culpabilisateur, un discours anti-IVG qui avance masqué. Il y a aussi « prévenir les IVG » que l'on entend partout. Mais cette formule est incroyable et très négative. Littéralement, cela sous-entend que l'IVG est néfaste en soi, qu'il faudrait la faire disparaître. Un de nos objectifs est certainement la prévention des grossesses non désirées, que les femmes aient le moins souvent possible besoin d'une IVG. Mais quand elles sont confrontées à une grossesse malvenue, l'IVG est une solution. Et on ne prévient pas les solutions,
on les utilise.
Oui. Ça fait du bien. Bon. Dernière question,
Sophie. À travers les témoignages reçus sur le blog, nous avons le sentiment que les femmes se sentent souvent coupables de ne pas avoir su éviter une grossesse, qu'elles ont un peu honte d'avoir mal géré leur contraception. Qu'en pensez-vous ? Que leur diriez-vous ?
Je leur dirais qu'aucune méthode de contraception n'est efficace à 100%, qu'elles n'avaient peut-être pas trouvé la méthode qui leur convenait, que c'est complexe le désir et le non-désir d'enfant. Les Françaises font en moyenne 2 enfants et 0,4 IVG. Cela fait 2,4 conceptions, toujours en moyenne, pour toute une vie de partie de jambes en l'air. Alors je trouve que globalement, elles gèrent rudement bien leur contraception.
Merci Sophie Gaudu.
Non, en vrai, moi ça me fait vraiment du bien d'entendre une médecin poser les choses aussi clairement. Je trouve ça assez rare. Je trouve très juste son analyse des discours anti-IVG qui ont gagné vraiment sur la question de la culpabilisation et sur la question du soi-disant traumatisme que devrait être une IVG de toute manière.
C'est un échec à la contraception.
C'est vraiment dans le discours, effectivement, même de certaines personnes dans les plannings familiales. Et c'est vraiment grave. Je pense que c'est très bien, très juste comme elle le souligne. Et j'espère que beaucoup de personnes qui travaillent auprès de femmes qui avortent lisent ça et comprennent ça et réfléchissent, quoi, parce qu'en fait, c'est hyper important.
Ouais.
Même si on sait ce qu'on fait, même si on sait pourquoi on ne veut pas poursuivre cette grossesse, on ne veut pas d'enfants et du coup, on veut avorter, ce n'est pas toujours simple de se retrouver face à des personnes qui ont des discours qui sont culpabilisateurs et en plus de façon insidieuse, quoi, quelque part.
Oui, c'est ça, c'est que c'est des gens qui sont censés être des alliés, nous soutenir, mais il y a des petites phrases qui glissent et qui nous font nous sentir mal quand on va avorter, quoi.
Donc moi, je trouve que quand on travaille dans l'accompagnement des personnes, et ben, voilà, c'est de notre devoir de travailler à notre façon de les accompagner, n'est-ce pas ?
Absolument. Bon, on va peut-être refermer là la page IVG ou pas IVG. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Est-ce qu'on s'écoute un morceau avant de conclure ?
Ouais.
Si vous avez envie de nous appeler pour quelque chose d'un peu court, parce qu'on est censé rendre l'antenne à 21h à peu près, vous pouvez encore. Mais voilà, en attendant, on va s'écouter, c'est quoi ? Blackbird Room, The Helm of Ned Kelly. Like a fish clutching red, just roared and fury heard. Like the brain that they locked in the silence. We'll be soup on stone to what we grow, what we earn.
Toujours à l'écoute de Calibre sur Radio Kaleidoscope 97 FM ou sur notre site internet k-libre.poivron.org.
C'est ça.
On vient d'écouter donc ce groupe Blackbird Rao, mais en fait nous venons d'apprendre qu'il et elle allaient jouer en concert à Grenoble le 22 juin au 102 rue d'Alembert, le soir, genre à 20h quoi.
Voilà, et ils viennent des États-Unis, de ce que j'en sais.
Voilà, ça a l'air sympa, donc voilà.
Qu'est-ce que...
Bah pour finir, on avait envie... c'est une émission où on passe un peu du coq à l'âne. Donc, une petite chronique, petite info.
Oui, pour rester dans du lourd quand même, un petit peu. Hein. Bon, ce soir, c'est pas léger. Hein. À part les capotes au début, mais sinon, voilà.
Ouais, tu voulais nous faire une petite page d'info sur les mariages forcés.
Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'en Isère existe le collectif, un réseau isérois, en fait, qui existe depuis 2007, contre les mariages forcés. Donc, c'est un réseau qui y a des associations, des centres sociaux, il y a le planning familial. Et leur but, c'est d'écouter la personne qui va donc les contacter pour voir avec elle ce qu'elle veut faire dans la situation dans laquelle elle est. Et derrière, ils vont fournir des aides. Ça peut être trouver un hébergement en dehors du département, dans des familles d'accueil pour s'extraire de la famille ou inscrire dans un lycée ou une université ailleurs aussi, dans une autre académie, chercher du travail, aider aux démarches administratives, juridiques, si besoin. Donc l'idée, donc le mariage forcé, peut-être pour pas confondre avec par exemple ce qu'on appelle le mariage arrangé ou le mariage blanc où les personnes sont d'accord pour se marier. Simplement, c'est pas dans le but de former une famille.
C'est pas un mariage d'amour.
Voilà, c'est pas un mariage d'amour si tant est que ça existe. Je retire la fin. Mais le mariage forcé, en fait, il y a au moins une des deux personnes qui n'est pas d'accord, qui n'est pas consentante. Sauf que le fait que de ne pas être d'accord, des fois, c'est pas exprimé ou c'est compliqué parce que c'est les parents qui vont imposer et les enfants vont avoir ce qu'on appelle un conflit de loyauté, c'est-à-dire ne pas avoir peur de s'opposer à la décision de ses parents. Donc, en fait, ce réseau, il va intervenir soit une fois que le mariage forcé a eu lieu. Et information qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, si on s'est marié et qu'on a dit oui par peur de ses parents, c'est une condition qui peut faire annuler le mariage. En fait, c'est-à-dire on peut revenir dessus après, on a 5 ans pour le faire, après c'est des démarches compliquées, ça aboutit pas toujours tout ça, mais c'est possible. Mais j'ai l'impression que là où c'est le plus efficace, enfin en tout cas où c'est important ce réseau aussi, c'est quand on craint en fait que d'être dans un projet de mariage forcé.
Alors comment on peut les contacter?
Alors si déjà juste pour la crainte pour comment on peut sentir un truc se profiler, ça peut être directement que la famille nous annonce qu'elle a choisi notre conjoint, là c'est assez clair, mais ça peut être aussi que la famille nous retire nos papiers d'identité ou que sans nous avoir consulté, notre famille nous annonce qu'on ne serait plus scolarisé l'année d'après. Voilà, c'est des petits signes qui peuvent ou alors quand on nous annonce une visite importante, quelqu'un qu'il faudra bien accueillir ou encore, enfin voilà, il y a plein de petits signes, mais le mieux c'est quand même de voir tout ça avec eux, donc, pour les contacter, alors ils ont un mail, c'est le mariageforce38, donc force parce qu'il n'y a pas d'accent, donc tout attaché, mariageforce38@yahoo.fr. Il y a aussi un numéro de téléphone, donc ça c'est pour le en Isère seulement. Donc c'est le 06 45 22 65 51. 06 45 22 65 51. Oui, c'est des professionnels qui sont dans ce réseau-là, donc c'est confidentiel. Tout ce qu'on dit ne sort pas de ce réseau. Enfin, voilà. Il ne faut vraiment pas hésiter à appeler si on se sent dans cette situation. Et après, si vous voulez en savoir plus, il y a un site national qui n'est pas spécifique à l'Isère, mais où vous aurez peut-être, sans doute plus de renseignements, c'est le www.mariageforce.fr. D'accord. Voilà pour la petite annonce.
Pour finir, moi, je voulais faire aussi une petite annonce pour Calibre, comme un genre d'appel à témoignage. En fait, en ce moment, je suis en train de lire un livre. Ça n'a pas grand-chose à voir avec Calibre, mais je vous le conseille quand même, parce qu'il est super bien. Ça s'appelle « Le jour où Nina Simone a cessé de chanter », de Darina Al-Joundi et Mohamed Kassimi. Et alors, c'est l'histoire d'une femme au Liban. Alors bon, c'est quand je vous dis que ça n'a rien à voir, c'est la guerre, tout ça, machin. C'est hyper fort et hyper beau son histoire à elle. Mais il y a un moment, il y a tout un moment, et c'est le moment où j'en suis là en ce moment, où elle parle de son rapport, où elle prend plein de drogues, elle baise avec plein de gens et tout, enfin plein de mecs. Et ça m'a pas mal fait cogiter sur ce rapport entre drogue, alcool, sexe et tout. Et je trouve aussi que c'est aussi quelque chose dont on parle pas forcément facilement de ce lien-là, en fait, entre le fait de prendre des substances qui modifient nos perceptions, qui modifient nos perceptions, quoi. Voilà.
Oui, là, tout de suite, drogues, ça me fait, oui, ça me fait penser soit à utiliser l'alcool, notamment, pour se sentir un peu bien, pour aller draguer,
se désinhiber un peu, mais alors avec aussi le côté un peu moins fun, peut-être, du blackout, par exemple, qui fait que tu te rappelles pas ce que t'as vécu la veille. Ouais. Enfin, que ce soit pour des trucs, des stratégies qu'on utilise soi-même prendre une drogue pour obtenir un truc, ou que ce soit des choses qui nous font des fois plutôt cogite, voire un peu glauque, voire voilà.
Oui, et puis quelles stratégies peuvent être mises en place avec des amis ou pas pour ces moments-là,
c'est
quoi.
C'est ça, voilà. En fait, c'est quelque chose, j'aimerais bien qu'on en parle. Je trouve qu'on n'en parle pas si souvent que ça. Et je me disais que Calypse, ça pourrait être un espace pour ça. Alors, pour l'instant, on n'a pas prévu d'émission thématique là-dessus. On en prévoira peut-être une, mais en attendant, si ça vous donne envie de témoigner, que ce soit en nous appelant ou en nous écrivant, on a déjà dit notre adresse plusieurs fois, k-libre@poivron.org. N'hésitez pas, moi c'est un sujet qui m'intéresse bien. Voilà.
Tout à fait. Bon, sinon, vous tapez Calibre au pluriel dans vos moteurs de recherche et puis vous tombez sur le site, ouais. Il y aura tout dessus.
On finit avec une dernière petite annonce grenobloise, une soirée importante.
Voilà, c'est mercredi prochain, le 15 juin à 20h à Antigone, donc rue des Violettes au 22. Et c'est une soirée qui s'intitule « Identifier et combattre les masculinistes ». Donc en fait, ce qu'on appelle masculiniste, c'est un peu ce courant qui va contre le féministe, voire contre les femmes et d'hommes qui ont envie de garder leur position et qui surfent pas mal sur des arguments qui touchent un petit peu la corde sensible. Voilà, ils parlent pas mal de droits des pères, de suicide des hommes, de crise du masculin. Voilà, et du coup, c'est un groupe de filles et de garçons qui ont décidé d'identifier un petit peu de creuser ces différentes idées qu'on entend, arguments, et puis bien sûr de les contrer. Voilà, donc c'est une soirée un petit peu ludique à la fois, donc un exposé ludique, c'est à 20h, mercredi 15 juin, à Antigone, rue des Violettes, sur Grenoble.
On vous souhaite une bonne soirée, à la semaine prochaine, pour Calibre, sur Radio Kaléidoscope 97FM. Salut.
Bonsoir.
Corps,
amour, sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.